Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau dans ce cycle de conférences du lycée d'État foyer des lycéennes. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, et je suis ravie de reconnaître certains visages. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir donc monsieur Denis Labouret, qui est maître de conférence à Paris 4 Sorbonne, qui va vous parler de Giono. C'est un véritable honneur pour nous monsieur. Je vous souhaite aussi la bienvenue dans cet établissement et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.
Un mot de joie et un mot de tristesse. Un mot de joie pour dire le plaisir que j'ai d'être ici et de parler de Giono. C'est toujours un plaisir de parler de Giono à un public de lycéens, de classe préparatoire, surtout pour un roman qui est assez difficile, hein, qui peut susciter des réactions de défiance ou de rejet. Alors nous allons essayer d'entrer ou de rentrer dans ce roman et dans la question du mal. Mais c'est toujours un grand plaisir à parler de Giono, surtout que je suis occupé par ailleurs par toutes sortes de tâches administratives qui sont beaucoup moins intéressantes. Et le mot de tristesse, c'est simplement pour dire que l'un des grands spécialistes de Giono est décédé il y a 8 jours, c'était Pierre Citron, qui a écrit la biographie. Peut-être qu'on vous a cité son nom dans des travaux. Il a collaboré à la Pléiade, notamment à l'édition du cycle du Hussard. Pierre Citron était âgé de 91 ans, donc l'âge de Thérèse au début des âmes fortes. Et il aurait été assez content, je crois, aussi qu'on mange des caillettes en son honneur. C'est-à-dire qu'on parle de Giono peu de temps après sa mort. Il est décédé il y a 8 jours à Montjustin, tout près de Manosque, où il avait racheté la maison d'un ami de Giono, qui était celle de Lucien Jacques. C'était un grand ami de Giono depuis le Contadour. Et le Contadour, c'est l'époque des engagements pacifistes de Giono dans les années 30. Donc Pierre Citron faisait le lien entre le Giono d'avant la guerre et la recherche d'aujourd'hui sur Giono. C'est l'auteur de la grande biographie de référence sur Giono, parue au Seuil, et dont est sortie d'ailleurs une version miniature au Seuil également. Et donc il reste dans la mémoire des spécialistes et des amis de Giono. Il était toujours aux réunions des amis de Giono à Manosque, dans le pays de Giono, tous les étés. Donc voilà pour un petit hommage pour commencer. Je disais tristesse, mais de même que la mort dans les âmes fortes, ce n'est pas forcément une chose dont il faille souffrir, dont il faille pleurer. Alors maintenant, le mal, on vous donne comme programme, les instances qui fixent les programmes proposent le mal dans les âmes fortes, peut-être que, et d'autres œuvres aussi, je sais, mais je limiterai mon petit champ de compétences aux âmes fortes, on aurait pu penser peut-être à d'autres œuvres de Giono. Il n'est pas certain que la notion de mal soit la plus appropriée, la mieux adaptée à la définition de ce qui, dans ce roman, défie la morale et défie notre raison. Moi, j'aurais plutôt employé une autre catégorie, je viendrai à cette notion plutôt vers la fin de mon exposé. Donc c'est une notion qu'on va interroger. Est-ce qu'il y a du mal? Quoi de mal dans cette histoire? Il ne faut pas le prendre comme un thème évident qui s'impose. Quand on voit Thérèse à la fin du récit, « Pourquoi voudrais-tu que je ne sois pas fraîche comme la rose ?» Elle a une fraîcheur parfaite, elle a passé une nuit blanche merveilleuse. À 90 ans, elle pète la santé, elle nous enterrerait tous. Elle n'a aucune culpabilité, aucun remords. Quoi de mal sur sa conscience? D'autre part, les âmes fortes sont issues d'un projet de recueil de nouvelles, de récits courts, qui ont donné d'ailleurs pour l'essentiel le recueil Faust au village. Et au départ, les âmes fortes faisaient donc partie d'un ensemble qui devait s'appeler « La chose naturelle ». Ce qui se passe dans le roman, au fond, c'est très naturel. Tout ce qui nous est raconté, ça fait partie des comportements humains qui peuvent relever de ce que Giono appelle la chose naturelle. Et si c'est naturel, où est le mal? Quoi de mal dans tout cela? Peut-être qu'on peut déplacer un peu la question en se disant que, plutôt que de parler d'une essence du mal ou d'une nature maléfique de l'être humain, on peut se demander ce qui advient, ce qui survient comme mal. Le mal, c'est peut-être plus ce qui relève de l'événement, de l'accident, de ce qui arrive dans l'histoire. Autrement dit, ce serait plus de l'ordre de l'action ou de la parole, et non pas de la nature des personnages. On pourra voir ce qui, dans l'action, relève de mauvaises actions, ou du fait de mal faire, mal agir, ou du fait de mal dire, mal parler, dans ce roman de parole, dans ce roman de voix, dans ce roman où l'on raconte avec des voix orales de bout en bout. Donc, on va partir en direction d'un point de fuite, plutôt que d'un thème qui est déjà posé, qui est déjà certain. Est-ce qu'il y a du mal ? Ça ne va pas de soi. Et dans cette quête, on peut partir, à titre d'hypothèse, de ce qui est peut-être le mal le plus répandu. La méchanceté de vous et moi, hein, la méchanceté de notre inhumaine humanité. Cette méchanceté, telle que Giono la décrit, l'analyse, la représente, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le cycle de romans auquel appartient Les âmes fortes, qu'il appelle chronique. Qu'est-ce que cette méchanceté naturelle? Qu'est-ce que ce mal commun, partagé, pour le Giono des chroniques, autour de 1948-1950? Alors, est-ce que c'est pour autant, là, le mal radical, le mal absolu, le mal antithèse du bien, ce mal qui serait le propre de notre condition humaine, hein, le premier point que j'aborderai pourrait reprendre ce titre, juste emprunter le titre à Malraux, mais avec un sens différent, hein, ou la bête humaine, pour trouver un autre titre de roman, hein, la bête humaine, la condition humaine, ce mal qui est au cœur de notre humanité, est-ce l'antithèse franche et massive du bien ? Il faut chercher une autre voie, il faut chercher une autre piste, parce que dans le roman, c'est sur ce fond de méchanceté collective, à la fois en lien et en rupture avec elle, que se détache la figure et même les figures de Thérèse. La Thérèse et les Thérèses. Il faudrait presque inventer un pluriel de ce prénom Thérèse. Personnage central, personnage pluriel, sujet et objet principal du récit. Pas le seul, ni comme sujet ni comme objet, mais sujet et objet principal de ce récit biographique, de ce récit de vie, qui est la charpente principale du roman. Ce roman, pour l'essentiel, nous parle de la vie de Thérèse à une certaine époque de sa vie. Parce qu'il y a toute une grande partie, 90 ans, hein, on n'a pas les... Il aurait fallu 10 tomes de la Pléiade pour raconter les 90 ans. Enfin, heureusement, elle s'est un petit peu assagie après la mort de Firmin, hein, d'après l'image qu'en donne le roman. Alors donc, dans une seconde piste, on pourra faire de Thérèse, on peut prendre l'hypothèse que c'est Thérèse l'incarnation du mal. Hein, le mal personnifié par la Thérèse ou les Thérèses. Et peut-être qu'elle incarne bien le mal justement par sa diversité, par sa pluralité. Trompeuse, menteuse, calculatrice, criminelle, pas seulement. Hein, Thérèse ou... pour choisir un autre titre, Le bonheur dans le crime. C'est un titre de Barbé d'Aurevilly. Et Le bonheur dans le crime, c'est l'une des diaboliques. Alors on pourrait imaginer que Thérèse fasse partie d'une série des diaboliques. Thérèse ou Le bonheur dans le crime. Alors, est-ce qu'on pourrait, avec Thérèse, fixer, définir définitivement le mal du roman ? Non, car on ne peut en rester là, parce que Thérèse est trop complexe pour s'identifier purement et simplement au mal. Ses relations avec Firmin, ses relations avec les Numances, ses relations avec sa co-narratrice. On verra comment la baptiser, cette co-narratrice. On peut l'appeler provisoirement ainsi. Ces différentes relations ébranlent les catégories de la morale, hein, bousculent les catégories de la morale, bouscule les catégories d'une métaphysique qui opposerait clairement le bien et le mal terme à terme. De même que Madame Numance n'incarne pas non plus aussi nettement le bien contre le mal. C'est une lecture superficielle du roman qui peut donner l'impression que nous avons affaire à un roman manichéen, Thérèse d'un côté, Madame Numance ou les Numances de l'autre. Ces notions que l'on pourrait croire antithétiques se brouillent ou se rejoignent dans une même démesure, dans un même débordement, dans un même excès. Les âmes fortes nous entraînent, et ça pourrait être un troisième titre, par-delà le bien et le mal, emprunté à Nietzsche cette fois, un troisième temps de cette recherche du mal, ou de ce à la recherche du mal perdu, ou de ce à la recherche du mal introuvable. On va voir si on trouve le moyen de cerner le mal à la fin du parcours. D'abord, la bestialité humaine, la méchanceté, le mal au cœur de notre condition humaine. Et je commencerai par une mise en contexte des âmes fortes. C'est important, je crois, pour imaginer peut-être les 15 ou 20 autres romans auxquels le jury aurait pu penser pour parler du mal chez Giono. Mais pas seulement. Pour aussi voir en quoi il y a une évolution, un déplacement d'accent chez le Giono des années 48-49, hein, de l'époque où il écrit les âmes fortes, après Un roi sans divertissement et Noé, avant Les grands chemins et Le moulin de Pologne. Alors, il est vrai que Les grands chemins et Le moulin de Pologne ont déjà été mis au programme des concours aux grandes écoles scientifiques il y a quelque temps. Il faut bien que le jury se renouvelle. Hein, force de... Heureusement, chez Giono, il y a du choix, il y a encore beaucoup de... Je n'ai pris que deux volumes parmi d'autres. Je citerai les pages, malheureusement, de la Pléiade, du tome 5 de la Pléiade, parce que je n'ai pas eu le temps de faire les transpositions en folio. Alors, si vous pouvez quand même les noter, je crois que ça peut être utile, parce que je donnerai aussi un plan, un peu plus tard, mais avec les pages de la Pléiade. Et il est facile de se... Vous êtes des matheux, vous ferez facilement une table de concordance, beaucoup mieux que moi. Moi, je m'y perds toujours un petit peu pour me retrouver, mais il suffit de faire une table de concordance, et puis on arrive à retrouver à peu près où est la page. Et puis, comme vous devez déjà connaître le roman par cœur, au salle où vous en êtes, ça ira très vite. Alors, souvent, on a tendance à grossir, à exagérer la différence entre le Giono d'avant-guerre et le Giono d'après-guerre. Comme si, d'un côté, il y avait un Giono plutôt rousseauiste, qui croit au bon sauvage, le bien est dans la nature, les romans d'avant-guerre. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, un Giono auteur d'œuvres sombres, un Giono pessimiste, un Giono fasciné par le mal. Alors, il ne faut pas exagérer cette opposition entre ce qu'on appelle parfois la première manière et ce qu'on appelle la deuxième manière. Les âmes fortes appartiennent à la deuxième manière de Giono. Il y a déjà, dans les œuvres d'avant-guerre, la trace d'une interrogation sur le mal. Giono a été d'abord marqué par le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Le mal, à un moment, pour lui, ça a été de toute évidence la guerre, les tranchées, le massacre, la boucherie des années 14-18. Et c'est ce qui va garder des traces au point qu'il sera... naïf et aveugle dans son engagement pacifiste à la fin des années 30. Mais dans le grand troupeau, notamment, le mal, c'est la guerre dans le grand troupeau. Il arrive que la nature incarne le mal. Dans Colline, c'est la nature qui est hostile, qui est maléfique dans Colline. La maladie est présente dans Jean le Bleu ou dans Le Champ du Monde, tous les malades qui vont voir Toussaint pour se soigner. La lèpre de l'ennui. L'ennui n'apparaît pas dans Un roi sans divertissement. Il est déjà au moins présent dans Que ma joie demeure, qui commence sur une métaphore qui assimile l'ennui à une forme de lèpre. Donc, Que ma joie demeure, malgré le titre, n'est pas un roman joyeux du tout. C'est marqué par un suicide, c'est marqué par le départ du héros qui a le sentiment d'avoir échoué. Et ce vœu semble se heurter à l'échec. Donc on a déjà dans tous ces romans les différentes facettes d'un mal historique, la guerre, d'un mal naturel, la colline, la nature, le monde, d'un mal psychologique et moral, l'ennui dans Que ma joie demeure, les passions qui peuvent entraîner l'homme à sa perte. Toutefois, dans ses œuvres, il reste une forme de confiance dans les possibilités qu'a l'homme de surmonter l'épreuve. Regain et Le Champ du Monde, notamment, s'achèvent sur des happy ends, sur des fins heureuses, de couples féconds qui reconstruisent une communauté, qui dessinent un avenir qui semble être radieux à la fin du roman. Il y a une promesse de vie. Et d'autre part, même quand il y a du mal ou le mal, mais qu'il est extérieur à l'homme, qu'il est projeté sur le monde naturel ou sur l'histoire, ou sur des drames socio-historiques, c'est une façon d'en dédouaner, d'en exonérer l'homme, qui reste capable d'actions héroïques, bénéfiques, contre ce mal. C'est le cas pour Saint Jean, héros dans Bataille dans la montagne, par exemple. Il y a des figures héroïques qui incarnent le bien contre le mal. Et ce sera le cas encore pour Angelo dans Le Hussard sur le toit, contre le mal de l'épidémie. Vous voyez, encore une forme de mal qui est différente de celle que vous avez dans Les âmes fortes. Mais il faut penser que Les âmes fortes, c'est écrit dans une parenthèse du Hussard sur le toit. Comme pour libérer Giono de pulsions plus noires qu'il avait en lui au moment où il imaginait l'histoire plus sublime, plus romanesque, plus poétique peut-être, de Angelo et de Pauline chevauchant dans les collines de Provence pour chercher le salut, moins contre le choléra qui ne leur fait pas peur que contre la bêtise humaine qui les poursuit. Donc les chroniques romanesques qui inaugurent Un roi sans divertissement, les chroniques commencent avec la rédaction de Un roi sans divertissement en 1946, déplacent l'accent du côté de la conscience humaine et de ses ténèbres. Du coup, le mal n'est plus à l'extérieur, au dehors, exonérant la subjectivité humaine de cette malfaisance. Le mal va être davantage du côté de la conscience. La nature passe au second plan. On a très peu de descriptions dans les âmes fortes. Elles sont très belles, il y en a quand même, mais elles sont tout à fait minoritaires par rapport à la répartition entre description et narration que l'on avait dans les œuvres d'avant-guerre. L'histoire, dans les chroniques, ne sert qu'à créer un effet de perspective. On le verra tout à l'heure rapidement à propos des âmes fortes. L'histoire sert surtout à créer une sorte d'effet de profondeur de champ pour les voix qui se relaient du passé au présent. Il y a un effet de polyphonie qui est favorisé par le passé historique, mais l'histoire n'est pas tellement présente en tant que telle. Et pourtant, il y a bien eu, pour le Giono de 48-49, pour le Giono de 46, Un roi sans divertissement, il y a bien eu un traumatisme historique. C'est la Seconde Guerre mondiale cette fois. Et Giono a évidemment mal vécu les deux emprisonnements successifs, un petit détour biographique, mais qui est utile aussi pour comprendre la trajectoire qu'il connaît à ce moment-là. Il a mal vécu les deux emprisonnements successifs, au début de la guerre pour pacifisme, à la fin de la guerre pour collaboration, alors que Pierre Citron l'a dit et l'a redit, et puis je défendrai sa mémoire en le redisant, Giono n'a jamais collaboré, il n'a jamais rien écrit en faveur de l'occupant, il n'a jamais collaboré ni par les mots ni par les actes avec le régime de Vichy. Il n'a eu que le tort de laisser, comme on dirait aujourd'hui, instrumentaliser son nom à des fins politiciennes, comme le disent aujourd'hui tous les hommes politiques à la radio tous les jours. Il a laissé publier, diffuser ses textes et exploiter son œuvre qui pouvait apparaître comme un encouragement, un certain retour à la terre du régime de Vichy. Donc il y a une convergence thématique qui a été exploitée par Vichy et par le pétainisme, mais Giono lui-même a par ailleurs protégé des résistants, et c'est surtout la brouille avec les communistes qui a entraîné l'ostracisme qu'il a dû subir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, il en sort définitivement guéri de toute prétention à l'action politique. Quand il revient à la vie publique après 1945, quand il est libéré de prison, il n'est plus question de s'engager comme il l'avait fait en faveur de ce qu'il croyait être le bien à la fin des années 30, et il en vient à une vision beaucoup plus pessimiste de l'être humain, qui est marquée par cette épreuve de la guerre. Et je vais citer un passage qui est assez intéressant à cet égard, un petit peu gênant, mais il faut accepter les textes gênants aussi, et qui montre l'amertume de Giono et sa vision du mal après 1945. Il écrit ceci dans un carnet, un carnet de 1948, donc peu de temps avant de commencer la rédaction des âmes fortes, environ 6 mois avant, mais c'est son univers mental à l'époque. L'hitlérisme a un mérite, donc le nazisme a un mérite. Il a lâché sur le monde des monstres de cruauté. Et on a pu s'apercevoir que ces monstres n'étaient pas exotiques, ni même allemands, mais qu'ils étaient aussi de notre pays, de notre village, de notre rue et même de notre maison. Tel le petit coiffeur bien gentil qui vous demandait si ne vous faisait pas mal avant de poser le rasoir sur votre joue, a tué et torturé de ses mains Mademoiselle X en plein bois parce qu'elle parlait allemand, alors qu'elle était secrétaire de mairie et alsacienne. Cet électricien qui m'écoute, etc. Il donne toutes sortes d'exemples d'artisans, de petits métiers, enfin d'hommes comme les autres, qui se sont à ses yeux révélés être des monstres de cruauté, dans ce déferlement des passions qui a été favorisé par la guerre, et aussi bien dans un camp que de l'autre. Ce qui est gênant, c'est ça, pour nous aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi équilibrer ainsi la monstruosité, le mal, la cruauté, et du côté des hitlériens et du côté de l'anti-hitlérisme, alors qu'il est évident pour notre conscience historique et morale que le nazisme est une barbarie sans commune mesure, etc. Mais pourtant, on trouve d'autres textes analogues, par exemple chez Romain Gary, qui n'est pas suspect du tout, pas du tout lui de collaboration, un gaulliste fervent, compagnon de la libération, engagé de la première heure. Gary dit aussi, au fond, qu'il y a eu au moment de l'épuration un visage inhumain de ceux qui se croyaient, qui se disaient partisans de la résistance, qui ont tondu des femmes, qui se sont proclamés, enfin, qui ont proclamé qu'ils incarnaient le droit, la justice, le vrai, alors que le pire était peut-être de ce côté-là. La vraie monstruosité était peut-être de ce côté-là. Toujours est-il que Giono donne ici la vision d'un mal partagé que la guerre, que la Seconde Guerre mondiale aurait mise à nu. Il donne toutes sortes d'exemples. Hitlérien ou anti, là n'est pas la question. Le grand mérite paradoxal de l'hitlérisme, le grand mérite, c'est qu'on a vu le fond de notre turpitude. et que je ne crois plus au coiffeur, à l'électricien, au cafetier et à cette jeune fille qui rougit, c'est un exemple qu'il a donné auparavant, je ne crois même plus à moi. Tous méchants, même lui. Il le dit quelque part, il y a un autre entretien où il le dit aussi. Bon, au moins, il y a cette lucidité que le fond de notre nature humaine, cette turpitude partagée, chacun la reconnaît en soi, et c'est aussi le propre du sujet qui écrit. Donc cette leçon de l'isme s'éclaire, d'autre part, à l'époque, des lectures qu'il fait de Hobbes et de Machiavel. Sa vision du mal, dans les années 45-50, est marquée par la lecture de Machiavel et de Hobbes. À propos de Machiavel, donc penseur florentin de la Renaissance italienne, Giono a écrit des notes sur Machiavel. Il a écrit une préface aux œuvres de Machiavel. Et dans un de ses textes, il écrit, ce sont des notes manuscrites de 1951. Là aussi, on est toujours dans la même époque, autour de 1950. « Tous les hommes sont naturellement enclins au mal. Quand ils font le bien, c'est par quelques raisons secrètes, en accord profond avec leur intérêt. » Donc même quand on fait le bien, c'est toujours par calcul, parce que c'est un moyen au service d'une fin, qui, elle, est forcément l'intérêt personnel. Et voilà ce que Giono retient de Machiavel. Ou encore, Machiavel dit « Les hommes sont méchants, il n'y a d'espoir pour personne ». Voilà ce qui est le résumé. Et son résumé, au fond, de Hobbes, est assez comparable. « L'homme est naturellement mauvais », naturellement souligné. Hobbes, qui est un philosophe anglais du XVIIe siècle, qui est connu surtout pour la formule homo homini lupus, on l'a peut-être déjà cité aussi, elle est intéressante pour comprendre les images qui peuvent représenter la bestialité humaine chez le Giono d'après-guerre, mais on verra que celui ou celle qui a des yeux de loup n'est pas forcément celui qu'on pouvait croire. Parce que c'est Madame Numance qui a des yeux de loup. Bon, enfin, n'anticipons pas. Voilà pour Hobbes et Machiavel. Et voilà pour l'anthropologie qui est celle des chroniques romanesques. Or, ce qui est important pour les chroniques, là aussi c'est un cadrage général, mais je crois que c'est utile pour entrer dans la complexité du livre, non seulement pour en supporter la complexité, mais pour en saisir les charmes et l'intérêt, si on peut y parvenir, c'est que cette anthropologie explique une complexité narrative, explique une nouvelle manière de raconter. On ne peut pas raconter comme avant. On ne peut pas raconter avec l'illusion qu'une conscience omnisciente peut percer à jour les consciences des personnages, parce que le fond de l'être est noir, opaque, énigmatique. La clé des comportements nous échappe. Les apparences morales sont démenties par la réalité des faits. Si on suit la thèse de Machiavel, comment savoir, comment juger les comportements ? Giono choisit donc, dans ses œuvres d'après-guerre, c'est la marque des chroniques romanesques, et non pas du Hussard sur le toit. Dans l'Hussard sur le toit, il entretient encore cette narration à la troisième personne, même si le récit est souvent focalisé sur Angelo, c'est un récit à la troisième personne, avec une instance unifiante de la narration. Les chroniques romanesques font éclater complètement l'instance narrative. On ne sait plus qui raconte, c'est particulièrement net dans les âmes fortes. J'allais dire que c'était le pire, c'est peut-être le plus beau. Le pari le plus beau, c'est de ne jamais indiquer devant les tirets quel est le personnage qui parle. Comme si on avait uniquement un entretien radiophonique. C'est un texte qui se prêterait, je ne crois pas que ça ait été fait pour les âmes fortes. Les textes de Giono se prêtent à l'oralisation et on pourrait ramener tout ce roman à un feuilleton radiophonique qui serait magnifique, faisant uniquement enchaîner les voix. Donc on ne peut pas raconter comme avant. Et Giono opte résolument pour des récits à la première personne, pour des récitants impliqués dans ce qu'il raconte. Il opte pour des voix qui transmettent des points de vue humains, avec tout ce que ça comporte comme limite, comme incertitude, comme lacune, comme oubli, comme mensonge. C'est tout le problème d'un roi sans divertissement, qui est Langlois, qui lui ne parle pas, qui est toujours décrit par les autres. J'avais écrit un article pour expliquer, enfin pour suggérer, peut-être pas forcément l'explication, mais un roi sans divertissement est construit comme un jeu de loi. Et il est question sans arrêt d'oie. Il y a une oie qui est sacrifiée, qui est tuée. Le roman est construit comme un jeu de loi qui se termine non pas par le paradis comme le jeu, mais par l'enfer, qui correspond à la conscience de Langlois. Mais à la fin, le roman se clôt sur cette tête de Langlois qui explose. Mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Elle prend les dimensions de l'univers, elle contenait sans doute l'univers, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Donc le roman tourne autour de cette énigme et choisit le manque ou l'excès. Pour Thérèse, on peut être tenté de penser que c'est plutôt l'excès, qu'il y en a trop, et de sa part, et sur elle. Il y a une sorte de saturation du récit. En réalité, il y a aussi des lacunes. Il y a des trous béants dans son itinéraire. Il y a des passages de l'action pour lesquels on reste complètement dans l'inconnu. On ne peut donc accéder dans ces chroniques qu'à des témoignages partiels, incomplets. La vérité de chacun se dérobe. Les chroniques sont des textes à la première personne. Il y a un petit passage de Giono où il commente ce phénomène. C'est une préface qu'il a écrite en 62 pour une réédition de certaines chroniques et qui se trouve rééditée dans la Pléiade. On ne trouvera pas grande innovation dans les ouvrages qui constituent ce premier ensemble. Pas grande innovation, c'est Avoir ses lotissements, Noé, Les âmes fortes. Hein, c'est uniquement des récits extrêmement innovants. Ce sont des récits à la première personne, le récitant étant, suivant le cas, le héros, pour Les grands chemins par exemple, ou moi-même, Noé, qui est un roman du romancier, ou n'importe qui, un roi sans divertissement, ou un médiocre, le moulin de Pologne, ou tout le monde, les âmes fortes. En 1962, Giono, pour résumer le choix narratif des âmes fortes, dit que le récitant, c'est tout le monde. Pourtant, quand on ferme le livre, on peut se dire qu'il y a principalement deux récitants, qui sont même des récitantes. Et cela veut dire qu'il y a un effet de voix collective qui est voulu, qui est recherché dans l'anonymat des répliques successives. Donc la polyphonie, l'enchâssement, les lacunes, tout cela préserve cette opacité de la conscience, ces ténèbres du dedans du sujet. Voilà quelle est la position du romancier au lendemain de la guerre. J'en viens à... Mais je m'aperçois que déjà le temps passe, il faut que j'accélère pour en venir au roman. Mais d'abord sur ce que Giono appelle dans un carnet la petite ville méchante. Dans un des carnets qu'il écrit pendant la rédaction des âmes fortes, il appelle Châtillon la petite ville méchante. Alors, où et quand se déroule l'action? Quel rapport avec le mal dans cet espace-temps? Où est Châtillon? L'action se passe dans plusieurs bourgades, petites villes, situées aux confins de la Drôme, du sud de l'Isère. Châtillon, c'est Châtillon en Diois. Donc, les régions principales de l'action, c'est le Trièves et le Diois. Robert Ricard, dans sa notice, situe la scène de la narration, la scène de la veillée, à Lallais, lieu aussi de l'action d'un roi sans divertissement, mais Lallais n'est pas nommé dans les âmes fortes, pas plus, à moins que vous y ayez trouvé, parce que j'ai recherché, mais je ne crois pas. Mais j'ai une étudiante de master dont je me suis inspiré pour le document que je vous donnerai tout à l'heure, qui a repris cette affirmation, du coup j'en ai rediscuté avec elle, j'ai recherché partout dans le roman, mais je crois que Lallais n'est jamais nommé, pas plus que dans un roi sans divertissement. On peut le reconstituer peut-être d'après certains indices, mais il est important qu'il y ait aussi cet anonymat pour la scène principale, qui est la scène de la narration, de la veillée du mort. Sinon, le roman se situe surtout sur l'axe qui va de Châtillon à l'ouest, donc du côté de Valence, vers... Une fois, j'avais fait une conférence sur la Provence de Giono, mais devant un public très, très, très vénérable, très âgé, dans Paris même. J'aurais essayé de leur expliquer les points, enfin, le décor en situant le sud par rapport à la salle, l'est et l'ouest par rapport à la salle. Là, je ne vais pas me livrer à ce jeu-là, parce que c'est quand même secondaire pour le roman. Mais Châtillon se situe à l'ouest, pour vous c'est par là. Clostre, plus à l'est, par des routes de montagne. Et en allant encore vers l'est, on a la route qui va du nord au sud et qui passe par l'Allée et Luz-la-Croix-Haute. Donc Luz est sur cette route, non loin du col de la Croix-Haute. Clostre est un nom inventé par Giono et se situe entre Luz et Châtillon. Mais le tout forme un espace assez restreint. Espace restreint qui n'ouvre pas sur des décors de montagne, qui n'ouvre pas sur des paysages, ici, même dans un ancien divertissement, les décors de montagne étaient barrés par la brume, mais qui est plutôt un univers de claustration. Même si claustration ne s'écrit pas tout à fait comme clostre. Un univers de l'enfermement, même si c'est l'auberge qui ouvre sur le monde, ce sont des lieux clos, des lieux comme des cercles concentriques, j'allais dire à la manière des cercles de l'enfer, mais Châtillon contient l'auberge, qui contient l'écurie, qui contient, etc. Voilà pour le lieu de l'action. Le roman ne s'attarde pas sur le décor naturel. Le mal ne vient pas de la montagne, en revanche, il peut être favorisé par cette claustration, par cet enfermement, par l'ennui de la montagne. Même si l'ennui, à mon avis, n'est pas une clé suffisante pour rendre compte du mal dans ce roman, pas plus que dans Un roi sans divertissement. Mais il est certain qu'il y en a qui s'ennuient. Thérèse, elle, ne s'ennuie pas du tout. Elle trouve de quoi s'occuper. Ça ne veut pas dire qu'il faille l'imiter, pas plus qu'il ne faut imiter M. V. Je crains que vos autorités qui vous encadrent n'aient l'impression que je vous donne des conseils extrêmement pervers et des recommandations très immorales, mais c'est ce qui se passe dans le roman. Donc, Thérèse a trouvé des moyens de se divertir et de trouver des divertissements de roi. Mais je crois que le plus royal de ces divertissements, c'est ce qui sauve la morale, c'est le récit, c'est la narration. Du côté de l'histoire, le cadre historique de l'action, on ne s'attarde pas non plus sur le contexte historique, alors qu'il y a d'autres textes de Genot qui en parlent. On peut juste noter que, bon, on a quelques repères chronologiques, un peu confus et un peu contradictoires, mais on arrive à situer la scène de la narration à peu près à l'époque où le roman est écrit, 48-49. Le mariage de Thérèse, elle le dit, 82. Elle est née en 1860, ce qui permet de lui donner à peu près 90 ans. Donc l'essentiel de l'action se passe dans les années 1880 et se prolonge jusqu'au début des années 1900, jusqu'au début du XXe siècle. Très peu d'éléments historiques, sauf le fait que l'on sait que Numance a tiré le coup de feu au moment du coup d'État, en 51. Il s'est battu contre le mal politique de la dictature, de même qu'avec l'aide de son épouse, il a jeté un hulan dans le Rhône en 1870. Une petite allusion à des formes de mots historiques contre lesquels les Numances ont agi. Donc les Numances ne sont pas non plus des saints qui restent dans leur angélisme en se tournant les pouces. Mais Giono s'intéresse plus au passé, à la manière de Peggy, à la mémoire du passé, à la chronique du passé. De même que Peggy opposait le chroniqueur à l'historien, Giono choisit des chroniqueurs qui ont une mémoire intime, affective du passé et qui ont la mémoire des vêtements, des patâches, des diligences, de l'époque où on construisait le chemin de fer, des parfums de l'époque, les détails vrais, les détails d'une époque, l'évolution sociale d'un temps, les marques du rang social, les petits métiers d'une époque, forgeron pour Firmin. C'est tout cela qui importe bien plus que la chronologie ou l'histoire des historiens. Mais on n'a rien sur les deux guerres mondiales dans les âmes fortes, alors qu'elles sont censées avoir occupé la vie de Thérèse. Indifférence royale à l'égard de cette histoire, de même que Langlois se moque complètement de 1848 dans Un roi sans divertissement, ce n'est pas cette histoire-là qui intéresse Giono. Le mal au quotidien, voilà ce qui figure la méchanceté dans le roman. Une fois qu'on est dans cet espace-temps, surtout Châtillon dans les années 1880, on a affaire à un mal ordinaire qui est par excellence celui de la collectivité. Giono s'intéresse à cette méchanceté commune, collective, d'abord dans les voix du cœur au tout début, ces voix anonymes qui représentent la vox populi. On a là toutes sortes d'anecdotes bruissantes, toutes sortes d'images peu flatteuses données de la vie familiale et sociale, qui annoncent les thèmes et les axes de la suite du roman. Exemple parmi d'autres, on a déjà des anecdotes, j'allais dire croustillantes, et horribles, à la Maupassant. C'est une scène à la Maupassant, celle de ces deux sœurs qui veillent leur mère à l'agonie en se demandant laquelle leur mère préfère. Donc il faut ouvrir les paupières de la mère, savoir qui la mère regarde. Entre les deux filles, Rose et Marie, c'est à qui héritera. Donc il faut encore éveiller l'attention de la mère pour dire, vous voyez, c'est moi qu'elle aime, et non pas l'autre. Dans les pages 242-243 dans la Pléiade. Morale de l'histoire, la justice, il faut se la faire soi-même. Si on est trop bonne, on est volée. Voilà déjà la morale, anti-morale, qui se dessine dans le prologue, qui est par excellence celui où se fait entendre cette méchanceté collective. Ensuite, cette méchanceté collective, on l'a dans Châtillon, vue par Thérèse. Quand elle reprend la parole après le très long récit de sa co-narratrice, Thérèse est celle qui voit les dessous. Elle voit ce qu'il y a sous les chapeaux. Des salauds, il y en a floraison. Ou encore, je savais que tous ces messieurs étaient égoïstes. Tous ces messieurs, c'est le pluriel qui compte. C'étaient tous des cochons. La bonté est en Amérique, ce qui veut dire que c'est une utopie, c'est irréel. Thérèse livre un point de vue réitéré sur ce mal collectif, sur cette humanité égoïste et vile. Le jeu, l'argent, le sexe, ce qui, dans le langage du roman, se traduit par les femmes, l'argent, la méchanceté, l'argent, page 427 dans la Pléiade. Thérèse met l'accent aussi sur les familles, la façade bourgeoise des familles, la façade morale des familles et la réalité des rapports de force qui se nouent à l'intérieur des familles et qu'elles imposent au dehors. Les saintes familles qui ont bâti leur fortune sur la force. Thérèse a un sens du croquis. Elle croque, et pour l'instant je reste au sens graphique, esthétique. Thérèse est celle qui croque, en faisant des silhouettes de nombreux grotesques anonymes. Elle fait ressortir tout le foisonnement de cette humanité-là. Et ça a un intérêt à la fois moral et esthétique. Moral parce que le grouillement lui-même, le foisonnement lui-même, figure le mal. On dirait des cancrelats, comme le dit le narrateur du Moulin de Pologne à propos des habitants de la petite ville dans le Moulin de Pologne. Ce sont comme des cancrelats. Il y a un grouillement qui par lui-même représente une humanité réduite à l'état bestial. Et puis intérêt esthétique aussi, parce que Giono a dit dans Noé, avant les âmes fortes, il disait que son rêve c'était d'exprimer le total, d'exprimer la prolifération des choses vécues. Noé, si vous avez lu un ressentiment, si vous avez lu les âmes fortes, il faut lire Noé, qui est tout à fait passionnant entre les deux. Et Noé indique une sorte de programme esthétique. Le romancier commence en nous disant « J'aurais bien voulu raconter plein d'autres histoires à propos d'un roi sans divertissement, je n'ai pas pu, j'étais quand même limité par le format du livre. » Mais il imagine toutes sortes d'histoires possibles de ce petit village. Il est passionné par ces anecdotes, par ces histoires, par tout ce qu'elles révèlent du mal humain, du mal partagé. Et il rêve alors de faire en sorte que le romancier puisse égaler Bruegel, puisse égaler un peintre qui représente toutes sortes de scènes avec un effet panoramique sur l'humanité en action et surtout l'humanité en mauvaises actions. Et peut-être que les âmes fortes, au moins en ce début, réalisent ce rêve de Noé ou ce programme de Noé. C'est une formule pour tenter d'exprimer le total, comme il l'écrit dans Noé. On a aussi l'image d'une ménagerie de fauves. Quand on veut souligner ce qu'il y a de bestial ou de méchant dans l'homme, on peut penser à des cancrelats, on peut aussi penser à des fauves, à des tigres, comme on le voit dans le passage où c'est Madame Dumans, cette fois, qui a cette image à propos des belles dames de Châtillon, les belles dames de Châtillon qui sont comme des fauves. C'est ce que pense Madame Dumans, telle que la décrit la co-narratrice qui a beaucoup d'imagination. On a aussi quelques cas représentatifs, je passe un petit peu vite, mais qui ont quand même, avec une histoire qui se dessine rapidement, comme Nicolas, dont on retrouve le cadavre alors qu'il n'était pas dans le lit de sa femme, mais dans le lit d'une autre. Que faire du cadavre de Nicolas, avec ce versant grotesque de la représentation de la mort, dans cette veillée funèbre où on veille un corps, on parle aussi d'autres cadavres, du cadavre de M. Dumans, du cadavre de Firmin, du cadavre de ce Nicolas. Artemare ou la mère Laroche, ces personnages que conseille Thérèse en dévoilant leur mauvais penchant. Voilà une belle brochette d'êtres vils, intéressés et médiocres. Et surtout, le plus intéressant à propos de ce mal collectif, c'est sans doute la façon dont ce mal collectif est en rapport avec la parole, avec la rumeur, avec la médisance. Il y a eu un mémoire soutenu sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, un mémoire de Master 2, de Master, sur les rumeurs chez Giono. Giono est fasciné par les rumeurs et fait en sorte que le romancier puisse relayer les rumeurs, les exprimer. Ce qui explique là aussi la confusion des paroles entendues. Comme lorsqu'on entend des bribes de paroles dans le métro, dans le bus, on devine un fragment d'histoire, on n'aura pas tout à fait la fin, on n'avait pas tout à fait le début. On aimerait rester pour entendre la suite. Il y a souvent chez Giono, ces oui-dire, ces on-dit. C'est une façon de loger le mal dans la parole. L'autre façon, ce serait la malédiction. Ou encore le mensonge. Mais la malédiction, pour maudire autrui, il faut parler. Enfin, souvent, la malédiction se fait au nom de la vérité, au nom de la justice. On maudit celui qui fait le mal, ou celui que l'on chasse, au nom de la vérité. Il faut une transcendance de référence, une valeur de référence. Et pour mentir, j'allais dire que pour mentir, il faut un menteur, il faut un auteur qui mente. Alors que la médisance n'a pas de source, n'a pas d'origine, n'a pas de responsabilité. Ce qui fait ces effets d'autant plus pervers. Et ce qui fait la confusion apparente du roman, le brouillard d'où surgissent les paroles et le brouillard vers lequel elles débouchent. C'est le propre de ces rumeurs. Donc je passe sur des passages qui pourraient illustrer cela, mais à plusieurs reprises. Par exemple, quand il est question de rumeurs sur Madame Dumans, dans les pages 340-341, il est question de commérage aussi. Je retiens le mot commérage, parce que qui transporte, véhicule des commérages, sinon des commères. C'est essentiellement féminin, ça, pardon de dire cela au foyer des lycéennes avec un public surtout féminin. Mais pourquoi y a-t-il surtout des commères dans le roman? Pourquoi des femmes? Ce ne sont que des femmes qui parlent. J'avais un ami prêtre qui avait un mauvais esprit, ça arrive, qui disait que pourquoi Jésus est-il d'abord apparu à des femmes? C'était pour que la nouvelle court plus vite. Hein? Après la résurrection. Moyennant quoi, les évangélistes sont quand même des hommes. Ne répétez pas cela, c'était une parenthèse. Mais le commérage vient surtout des femmes qui ont l'habitude de se côtoyer, de se rencontrer dans des tâches familières, dans des tâches quotidiennes. Hein, ce qui explique que Giono y accorde beaucoup d'importance. Il y a aussi toute une scène de Deux Cavaliers de l'Orage, où on voit les femmes qui parlent entre elles ainsi. Il y a une circulation de la parole qui est pour Giono typiquement féminine, qui porte la marque d'une époque. Hein, ça ne veut pas dire que Giono prône ce type de civilisation, quoique il ait toujours été bien content quand son épouse faisait de la daube dans la cuisine et qu'il pouvait descendre uniquement quand le plat était terminé. Mais voilà, donc commérage, rumeur, opinion, ça a beaucoup d'importance dans le roman, et c'est un « on », c'est un indéfini qui est la source de ses paroles. La co-narratrice, c'est aussi ce « on », c'est aussi cette source indéfinie. Alors on a aussi quelques autres personnages sur lesquels je passe pour en venir au bonheur dans le crime. Et pour en venir au roman de Thérèse. Parce que je pense que le clivage est moins entre le bien et le mal qu'entre la faiblesse et la force. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est plutôt des âmes sales, des âmes faibles, des âmes mesquines, des âmes petites. Et l'opposition principale qui intéresse Giono, c'est entre ces âmes faibles et les âmes fortes. Alors avant de revenir tout à l'heure au titre du livre, venons-en à Thérèse en elle-même et à ce roman de Thérèse. Donc c'est là que je pourrais peut-être distribuer ce plan, qui est une proposition, ce n'est pas du tout le plan unique pour ce roman qui est éminemment instable et pluriel. C'est une proposition de lecture du roman et de guide possible que je vais justifier, expliquer, et qui s'inspire d'un travail de master qu'a fait une étudiante sous ma direction sur la question du double jeu dans les âmes fortes, mais je l'ai un peu remanié à ma façon. Alors c'est un roman polyphonique, les âmes fortes, un roman à première vue, à deux voix, avec deux romans, la conarratrice et Thérèse. La conarratrice, on l'appelle parfois le contre, parce que c'est ainsi que Giono l'appelle dans ses carnets, donc on peut garder l'appellation le contre, hein, soit la narratrice ou la conarratrice en la distinguant de Thérèse, soit le contre, la vie contraire. Mais la vie contraire n'est pas si opposée que cela. Alors, on pourrait croire à une symétrie entre les deux voix. Pardon pour le programme qui circule, mais je ne suis pas encore en train de commenter le plan, donc je peux continuer en même temps quand même. On pourrait croire qu'il y a une symétrie entre deux voies antithétiques et que la vérité de Thérèse reste introuvable parce qu'on reste dans l'indécidabilité entre ces deux interprétations. Ce n'est pas si simple du tout. D'abord, parce que les deux voies sont asymétriques. Thérèse raconte sa propre vie, le contre non. Le contre adopte un point de vue parfois omniscient. Hein, elle raconte les pensées de Thérèse, elle raconte les pensées des Numances. Elle s'accorde un pouvoir exorbitant. Thérèse raconte sa vie telle qu'elle la voit elle-même, telle qu'elle s'en souvient, ce qui ne veut pas dire non plus que sa version soit plus fiable, comme on sait qu'elle ment comme un arracheur de dents. Donc deux versions, sans doute, mais qui ne s'opposent pas de manière symétrique, hein, qui ont quand même de grandes différences entre elles. D'autre part, il arrive que le contre et Thérèse ne soient pas du tout en opposition, mais collaborent, soient complices, s'enchaînent bien plus qu'elles ne soient en contradiction. Je ne vais pas trop m'y attarder, mais surtout dans la fin du roman, et surtout dans l'enchaînement final, il y a une relative cohérence dans l'enchaînement des deux versions finales. Mais il y a aussi parfois des phénomènes de contamination. Après que Thérèse s'est montrée maléfique, il reste dans le portrait que le comte donne d'elle des traces de ses maléfices avec le traitement qu'elle inflige à Firmin. Quand on voit la barbarie, la sauvagerie de Thérèse laissant le pauvre Firmin, le pauvre, tellement il est victime de Thérèse, voilà, le laissant en sang sur le sol de la chambre, le pauvre Firmin en tremble et hésite à aller se coucher avec une femme aussi terrifiante, on est loin de l'image de la tendre Thérèse aimée de Madame Nuance de la version précédente du comte. Autrement dit, on n'a pas un récit linéaire et cohérent du comte d'un côté, on n'a pas un récit linéaire et cohérent de Thérèse de l'autre. On a des formes de connivence entre les deux narratrices et on a parfois des contradictions internes dans leurs récits à l'une et à l'autre. Il arrive que le contre se contredise elle-même. Il arrive que Thérèse se contredise elle-même. Enfin, c'est ce qui rend le roman bien plus intéressant du point de vue de l'enchaînement des séquences. Alors, d'où l'enchaînement que vous pouvez voir sur ce schéma, hein, où je propose de distinguer 5 romans de Thérèse qui ne correspondent pas exactement à la structure dégagée par Robert Ricard dans la préface de son édition, parce que ça entre un peu plus en détail pour les enchaînements des séquences au tout début du roman, même si elles sont plus brèves. On peut dire, hein, il faut justifier ces appellations. Pourquoi romanesque? Parce qu'au début, au fond, c'est une belle histoire d'amour. Un rendez-vous, la nuit, les jeunes gens vont se marier contre la vie des parents. On est dans un romanesque à la manière des romans idéalistes du XVIIe siècle. Hein, l'évasion, la fuite, les jeunes gens qui cherchent à vivre leur amour contre la loi, contre les interdits des adultes. C'est ainsi que peut apparaître le tout début de l'aventure de Thérèse avec Firmin. En revanche, ensuite, c'est le contre qui fait intervenir le réel, qui fait intervenir des formes de corruption, l'arrêt à l'us. Et ensuite, les récits de Thérèse qui s'enchaînent emportent la marque de ce passage, un roman réaliste qui rompt avec le récit romanesque du début. Le récit principal au centre, c'est ce qu'on pourrait appeler le roman stendhalien, le roman des amours de Madame Dumance et de Thérèse, pleine de tendresse l'une pour l'autre. Firmin est complètement à l'écart, hein, d'où le schéma en gras qui oppose les deux entités, Firmin d'un côté, Thérèse et le couple Numance de l'autre. Mais on est dans un roman à la manière de la Chartreuse de Parme, un roman des sentiments, magnifiquement décrit d'ailleurs, un roman à la Stendhal. Quatrième temps, tout change, Thérèse reprend la parole, c'est une calculatrice, c'est une menteuse qui apprend à dominer les autres. J'appelle ce roman-là un roman libertin sur le modèle des liaisons dangereuses, et j'y reviendrai tout à l'heure, si j'ai le temps, sinon je vous donnerai la référence de la lettre des liaisons dangereuses. J'allais dire qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à certains passages d'Amfort, c'est plutôt le contraire. C'est Giono dans Amfort qui semble par moments recopier les liaisons dangereuses. Enfin, on termine par une sorte de roman noir, cette affaire énigmatique de la mort de Firmin, par le personnage du muet interposé. C'est admirablement trouvé quand même de faire tuer Firmin par le muet. Parce que là, au moins, pour le témoin, celui-là, on peut penser qu'on n'aura pas besoin de le tuer, le muet. Il n'y aura pas de témoignage oral. Dans ce récit de la parole, dans ce récit de la volubilité, le dernier à agir efficacement, c'est le muet sous sa pèlerine qui est remise ensuite au vestiaire comme si de rien n'était. Donc voilà pour un rapide plan du roman qui peut recroiser peut-être ceux que vous avez déjà rencontrés. Alors, si Thérèse représente le mal, c'est dans les points 4 et 5. C'est dans les deux derniers romans, essentiellement. C'est aussi, ne l'oublions pas, dans ce que j'appelais la scène narrative, ce qu'on peut appeler la narration extra-diégétique, la narration qui englobe les différents récits, c'est-à-dire la scène de la veillée. Ce qu'il y a de commun entre la Thérèse du passé et la Thérèse d'aujourd'hui, c'est le moi, c'est l'égoïsme. Moi, il y avait d'abord moi. Voilà ce que dit Thérèse de ce qu'elle a été. « Il me reste moi », dit Thérèse au présent, au tout début du récit. Ainsi, Thérèse peut être considérée comme liée au mal, c'est peut-être d'abord par cette affirmation du « moi ». Elle dit aux autres « N'y voyez aucun malheur, je me sens très bien ainsi ». Elle ne s'occupe pas du tout de sa famille, elle existe pour elle-même, l'instinct de conservation est bien naturel. D'où sa fraîcheur finale. Dans ce récit où il y a beaucoup de contradictions, il y a quand même une continuité, une relation entre le moi passé et le moi présent. Mais Thérèse va ensuite bien plus loin dans la conquête méthodique de l'immoralité. Et là, je vous renvoie à Laclos, aux liaisons dangereuses et à la lettre 81 adressée à Valmont. Le parcours de Thérèse, son apprentissage de l'imitation, de la simulation, jouer l'amour sans le ressentir, jouer les sentiments sans les ressentir, c'est exactement le parcours de la marquise de Merteuil. Une version libertine du mal et un apprentissage du pouvoir qui est aussi quelque chose de balzacien. Lorsque Thérèse dit « Je vis Châtillon devant moi, j'étais prête, je me dis en avant ». Châtillon est une ville aussi boueuse que le Paris de Balzac dans le Père Goriot, mais Thérèse lance un défi à Châtillon, un peu à la manière de Rastignac, à la fin du Père Goriot. Donc on a un roman de formation qui forme à l'envers de la morale, à l'enfer de la société, bien plus qu'une vision positive de la société. Mais Thérèse est plus qu'une égoïste, est plus qu'une femme calculatrice, comédienne, elle a quelque chose de vampirique. Elle a le goût du sang, en un sens métaphorique, certes, mais c'est quand même intéressant de la voir être comparée à un furet, page 428-429 dans la Pléiade, tout ce passage sur le sang qui passe de l'un à l'autre, sur cet appétit du sang. Thérèse ne veut pas de l'argent, elle se fout de l'argent, elle ne veut pas simplement voler. Elle n'est pas intéressée par l'avoir, mais par le pouvoir, elle est surtout intéressée par un surplus d'être, par un surplus ontologique qui remplisse le vide de l'existence. Le Giono d'après-guerre est hanté par ce thème du sang qui revient très souvent, mais ce thème du sang arrache le roman à la simple morale du bien ou du mal. Ce thème du sang nous place dans le registre de la symbolique, du mythe ou de la tragédie. Et peut-être est-ce par là que ça peut rejoindre aussi la pièce de Shakespeare que vous avez au programme. On est au-delà de la méchanceté. Thérèse dévore la vie des autres. Thérèse est une gourmande, nous dit le texte. C'était une gourmande, page 456. Sa gourmandise est à la fois maléfique et narrative. Elle est gourmande parce qu'elle aime bien manger des caillettes pendant la veillée funèbre. Elle est gourmande parce qu'elle aime bien se repaître de la vie des autres. Et elle aime bien s'en repaître encore maintenant par son récit oral. La bouche ou la gueule du furet est aussi la bouche de la narratrice présente. Chroniquer, si je puis dire, pour une chroniqueuse, un chroniquer, c'est croquer. C'est croquer la vie à pleines dents, même si c'est aussi croquer la mort des autres à pleines dents. Elle se régale de ses histoires, elle se régale de la mort des autres. Il y a un récit de Giono qui se trouve dans Fausto Village qui s'appelle Notre vin, où il y a ce thème du plaisir que l'on a à faire bombance du malheur, de la souffrance qui arrive aux autres. Et on a dans le roman l'épisode de ce cadavre qui rôtit et qui donne l'eau à la bouche. On a faim parce qu'on sent le cadavre qui rôtit. Page 410 dans la Pléiade. Voilà, se repaître de la mort des autres. Il y a un fantasme d'anthropologie ou de cannibalisme dans le roman qui montre le lien qu'il y a entre narration, gourmandise et vampirisme. Ce qui nous conduit par-delà le bien et le mal. D'abord avec cette notion d'âme forte. Le titre du roman est expliqué dans une page très près de la fin, au singulier. L'âme forte, c'est celle, au fond, dont les passions investissent le champ du réel, dont les passions occupent toute la réalité. L'âme forte est celle qui donne le pouvoir à l'imagination. C'est le passage capital du roman qui explique le titre. Thérèse était une âme forte, elle ne tirait pas sa force de la vertu, ce qui oppose le sens que Giono donne à l'expression à celle qu'elle pouvait avoir chez les moralistes du XVIIe siècle. La raison ne lui servait de rien, elle ne savait même pas ce que c'était. Clairvoyante, elle l'était, mais pour le rêve, pas pour la réalité. Séduite par une passion, elle avait fait des plans si larges qu'ils occupaient tout l'espace de la réalité. Elle avait fait des plans si larges qu'ils occupaient tout l'espace de la réalité, les plans de l'imagination. La vérité ne comptait pas. Rien ne comptait que d'être la plus forte et de jouir de la libre pratique de sa souveraineté. Cette souveraineté de l'imagination, cette souveraineté des passions, autorise à faire la jonction entre Thérèse et Madame Numans, et à voir dans Madame Numans une autre âme forte, qui elle aussi est une puissance d'esprit, une puissance d'âme, par le pouvoir de l'imagination. Donc Thérèse n'est pas simplement l'image du mal, parce qu'elle est habitée par ses passions, parce qu'elle est habitée par l'imagination, elle est très proche du romancier. Je disais tout à l'heure qu'elle ment comme un arracheur de dents, elle ment comme le romancier peut mentir. Parce que pour Giono, à la différence des théoriciens d'aujourd'hui, pour Giono, il n'y a pas de différence fondamentale entre le mensonge et la fiction. Pour lui, ça ne le gêne pas de tromper vraiment autrui en racontant des histoires, alors que la fiction, c'est le récit inventé, mais avec un pacte tel que le lecteur sait qu'il y a invention. Donc Thérèse n'est pas la pure image du mal, Madame Numans n'est pas non plus la pure image du bien. La générosité, en effet, peut s'élever à un seuil de démesure tel que la générosité sort du domaine du bien, tout comme la puissance de Thérèse l'arrache, et la puissance sanguinaire de Thérèse l'arrache au domaine du mal. C'est ce qui prouve qu'il y a une réversibilité, une contamination des deux passions à l'issue de la lecture. Madame Dumas, certes, s'accomplit dans le don, dans la démesure du don, comme Thérèse, dans la prise et dans la domination. Mais Madame Dumas a des yeux de loup. Je cite le texte, « Elle dévisageait tout le monde comme si elle allait vous manger. » Encore une qui dévore. Ça en fait beaucoup, enfin, ça en fait deux personnages. Il y a un appétit dévorateur chez les personnages qui sont des âmes fortes. Voracité symétrique de celle de Thérèse, on peut considérer qu'il y a une forme de voracité dans l'amour qu'elle voue à Thérèse, qui est aussi une forme de conquête de Thérèse. Pour Giono, la générosité n'est jamais complètement gratuite. Il y a une forme d'intérêt aussi dans ce don, dans cette maternité qu'offre Madame Dumas à Thérèse. Mais si on en reste là, c'est encore affaire de psychologie. Or, il y a mieux, ou il y a pire, le terrain des passions, le terrain de l'hubris. Je parlais de démesure. Le mal, pour Thérèse, dépasse le mal psychologique pour s'élever à l'hubris. Le bien, pour Madame Dumas, dépasse le bien psychologique ou moral pour s'élever à l'hubris. Madame Dumas sauve tellement les gens, aide tellement les malheureux, qu'elle est le Napoléon du malheur. Le Napoléon du malheur, c'est une image de puissance. Et elle a des conquêtes, elle aussi, des conquêtes qui sont celles de la charité. Il y a un beau passage sur la férocité réciproque des Dumas et de Thérèse, côté loup, côté agneau. C'était « Embrassons-nous, Folleville ». Il y a une parenté étonnante entre les loups et les agneaux. Du coup, cette façon de donner de Madame Dumas n'est pas catholique. Elle dérange, elle déroute. Firmin n'y comprend rien. Firmin incarne une position un peu intermédiaire entre la médiocrité commune, la malfaisance ordinaire, et cet univers des passions où il perd pied. Lui qui ne pense qu'à l'argent, qu'à son intérêt, il est dérouté, et par Thérèse, qui lui apparaît comme un veau à cinq pattes, et par Madame Dumas, dont la générosité le sidère. Et il ne comprend pas. Madame Dumas n'était pas dupe. Comment est-il possible qu'elle se soit laissée flouer ? Et il y a un dialogue extraordinaire du couple Dumas, qui va très loin dans le paradoxe, où ils disent qu'ils n'ont jamais été aussi bas dans la générosité, aussi bas dans le don. Il y a une forme de bassesse dans le plaisir qu'ils prennent à cette générosité. Autrement dit, je finirai par une catégorie un peu différente de celle du mal, qui est celle du monstrueux, qui transcende le mal, qui est plus ambigu. Un veau à cinq pattes, en soi, c'est pas méchant. Un monstre dérange, un monstre fascine, un monstre peut faire peur. Alors il n'y a pas de monstre dans le roman, mais il y a du monstrueux. C'est-à-dire des formes d'excès, de démesure, de désordre, qui brouillent les catégories usuelles, entre autres celles de la morale, qui dérangent l'ordre des choses. On le dit à un moment aussi de la générosité de Madame Dumas, qu'elle dérange l'ordre social, elle dérange les huissiers, elle dérange les curés. Donc la catégorie du mal n'est pas suffisante pour nous faire entrer dans ce domaine de l'éthique, où l'éthique rejoint l'esthétique, et qui pour Giono relève de ce qu'il appelle un autre système de référence. Il y a le système de référence ordinaire, économique, matériel du monde, celui dans lequel vivent la plupart des hommes, ou un personnage comme Firmin. Et il y a le système de référence de Shakespeare, de Macbeth, de la Bible, d'Abraham et Isaac. Quand Abraham se prépare à tuer Isaac, ce n'est pas mal. Ça se comprend dans une autre logique, dans un autre système de référence, qui est celui du sacrifice, qui est celui du sacré. Et on peut réinterpréter peut-être certaines morts du roman aussi, selon cette logique de la liturgie. Manger symboliquement le corps de l'autre, c'est une forme de liturgie. Il y a peut-être une fonction sacrificielle de cette mort d'Albert qui rend possible un rassemblement de la communauté qui fait mémoire d'elle-même. De la mort de Firmin, qui libère peut-être Thérèse et la communauté d'un certain traumatisme ancien, d'une charge de violence, qui peut ensuite libérer Thérèse et faire qu'elle vive en racontant ses histoires tranquillement et avec une forme de joie et de paix aussi pour ceux qui l'entendent. Donc on peut entrer dans ce système de référence du monstrueux, de la beauté esthétique, système de référence qui est mentionné par Giono au début d'un prochain divertissement, qui est repris dans Noé, et c'est encore celui dans lequel nous font entrer Thérèse et Madame Dumas, âme forte qui se détache du reste des êtres. Voilà pourquoi la catégorie du mal n'est peut-être pas tout à fait suffisante. Ça ne veut pas dire que je critique le programme. Mais Thérèse, le contre, on peut y ajouter la narratrice, le contre, qui est aussi une âme forte par sa puissance d'imagination. Elle qui arrive à reconstituer des dialogues entiers entre Monsieur Dumas et Madame Dumas, alors qu'elle n'était pas là, pour assister aux événements. Hein, c'est extraordinaire. Elle qui parle de Thérèse à la troisième personne en disant à Thérèse sa propre vérité. Et il y a là aussi une puissance, une force d'âme qui l'a fait entrer dans un système de référence qui n'est tout de même pas le système de référence habituel. Voilà pourquoi on peut considérer que ce récit sur le mal, certes en partie, dépasse la question du mal et a une vertu cathartique par la jubilation même du récit qui se fait, que l'on saisit en train de se faire, hein, dans sa dynamique créatrice, qui reproduit d'ailleurs la dynamique qui était celle de Giono quand il l'a écrit. Giono ne savait pas trop où il allait, il a commencé le récit d'une nouvelle. La nouvelle a pris des proportions considérables. Il commençait l'histoire d'un personnage, Thérèse, dont la co-narratrice aurait rétabli la vérité quand même, qui aurait été corrigée. C'est pas ce qui se passe à la fin, il se passe tout à fait autre chose. Il y a une dérive du roman, une excroissance du roman, une monstruosité du roman, qui est, malgré ce qu'on peut en penser à la première lecture, qui était... La mienne était comme la vôtre au tout début, quand je l'ai lu, quand j'étais adolescent aussi. Première lecture, j'ai laissé tomber au bout de 10 pages. Il faut y revenir. Mais les plus grands romans qui nous accompagnent tout au long de notre existence, c'est parfois les romans sur lesquels on revient, comme celui-là. Donc il y a des formes du mal qui, devenues matière narrative et manière narrative, non seulement contenu thématique, mais aussi forme de la narration, nous font plutôt du bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous prie d'excuser ce petit déséquilibre qui fait que j'ai... Mais j'aurais aimé continuer un peu plus longtemps. C'est pas grave. Merci en tout cas d'être resté le soir à une heure tardive. Et je veux bien essayer de répondre à vos questions. Essayez, parce que je ne suis pas sûr. Je ne peux pas répondre à toutes les questions du roman.
Dans la monstruosité du montage narratif.
Oui.
Donc, dans cette monstruosité du montage narratif, est-ce que vous pouvez évoquer une disparition narrative qui est celle de Madame Numans ? Est-ce que vous pouvez...
Le silence de Madame Numans. Elle ne parle pas, sinon dans la parole que lui prête... Les autres ? Oui, à son effacement. Vous voulez dire l'effacement du personnage. Parce qu'il y a un double effacement. Il y a un effacement du premier plan, enfin de la narration. Elle ne fait pas partie des personnages qui racontent. On aurait pu imaginer un relais narratif aussi qui raconte le témoignage de la nuance. Donc on ne fait que reconstituer ses paroles. Et je parlais pour commencer d'un point de fuite. C'est elle le personnage point de fuite. Le personnage qui s'efface, dont on ne sait même pas s'il meurt ou non, donc qui se dérobe complètement, qui échappe à la prise de Thérèse. Thérèse a une forme d'emprise sur Numans. Et on peut dire que c'est la seule défaite de Thérèse, cette échappée hors du récit. Et c'est aussi représentatif d'une fascination de Giono pour des personnages ainsi estompés, qui se vouaient au silence. Bon, Langlois, pour une part, est effacé aussi, même si sa mort est tragique et visible. Langlois s'efface aussi de la narration dans son divertissement et Madame Numans fait partie de ces êtres qui sont, je crois, les plus attachants chez Giono parce qu'ils sont les plus absents, comme l'absente dans l'Iris de Suse. Paradoxalement, ce roman où l'on parle beaucoup, où Thérèse parle beaucoup, où le comte parle beaucoup, est aussi un roman qui se construit autour de ce corps absent de Madame Numans. Il est question dans Noé, à un moment, mais sur le mode plutôt burlesque, du corps absent lors d'une veillée funèbre. Mais on a ici une veillée funèbre en un sens à corps absent et la présente absente la plus sensible, certainement Madame Numans, parce que je crois que c'est celle qui fascine aussi le plus son créateur. Celle qui ne parle pas, celle dont on parle, celle dont la générosité, Giono en parle aussi dans les entretiens avec Amrouche, dont la générosité est fascinante par cette démesure et cette instabilité. Il y a une variante où Giono faisait faire à Madame Numans un geste cruel, où Madame Numans perçait un chaton de la pointe de son ombrelle. Donc il s'est effacé, mais là, il y a une forme de monstruosité par le vide, par le manque, qui compense l'excès qu'il y a par ailleurs, ou l'hybridité, autre forme de monstruosité, dans la narration. Mais c'est tout à fait juste, il y a quelque chose d'assez fascinant. Je crois que Madame Numans est au centre de différents cercles concentriques, et c'est le personnage le plus énigmatique par cette disparition, réduite à l'état de fantôme, un peu comme l'absente dans l'Iris de Suse, même si c'est un cas un peu différent. Mais La fin du Moulin de Pologne, c'est pareil. Il y a eu un personnage autour duquel Giono a longtemps rêvé et dont il ne reste pratiquement pas de traces. Alors qu'il lui a donné, il a écrit 100 pages de variantes, il lui a donné 3 noms successifs. Il l'a appelé l'Iris de Suse avant d'en faire le titre d'un autre roman. Et cette femme, finalement, disparaît complètement. Elle n'a pas de traces. Hein, il y a une fascination de Giono pour le vide. Thérèse est vide, elle a besoin du sang des autres pour se remplir, mais il y a aussi un vide narratif qui aspire le personnage de Madame du Vence.
Et justement, je suis un peu, je ne suis pas étonnée, je pense qu'on n'avait pas eu le temps, que vous n'ayez pas montré ou que vous n'ayez pas souligné plus l'extraordinaire parallèle qu'il y a entre les deux romans. Parce qu'au fond, on a dans les deux romans un prédateur et sa proie. Dans Un roi sans divertissement, le prédateur, c'est le tueur. On ne va rien savoir de lui. En revanche, on va savoir beaucoup de la proie. On apprend beaucoup de choses sur la proie qui est Langlois. Et dans Les âmes fortes, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'énigme de la proie qui est Madame Numance, et il y a beaucoup de choses sur la prédatrice. Et ce qui les unit tous les deux dans le roman, le tueur comme Thérèse, c'est précisément le sang frais. Elle le dit, l'amour maternel, c'est du sang pur. Et cette espèce de soif de sang, et en même temps, ce besoin de sang, mais de manière esthétique. Le mari de la tueuse, enfin la femme du tueur, dans Un roi sans divertissement, c'est une brodeuse. Elle fait des merveilles, elle est dans un univers immobile, et c'est ce qui exaspère au fond le tueur. C'est à la fois cette beauté, cet univers immobile. Il a besoin de faire couler le sang avec une espèce de rituel esthétique. Et Thérèse, c'est aussi un peu la même chose. Elle est fascinée par tout ce qu'il y a de beau chez Madame Numance. Elle est fascinée par cette harmonie, elle est fascinée par la façon qu'elle a de tenir sa jupe, enfin, tous ces mouvements, toute cette grâce qu'il y a. Et elle est en même temps le prédateur absolu. Ce qui fait que, c'est peut-être pour ça, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, mais c'est peut-être l'explication, quand Madame Numance disparaît complètement, Thérèse la cherche. Visiblement, ce n'est pas une construction de quelqu'un d'autre. Enfin, elle cherche réellement. Elle la cherche. On ne sait pas si elle la cherche parce qu'elle l'aime ou si elle la cherche parce que la proie lui a échappé précisément. C'est quelque chose qui est surprenant dans le roman. On a beaucoup de mal. Et moi, j'ai eu l'impression qu'à l'inverse d'Un roi sans divertissement, où au fond, ne rien dire sur le tueur était assez simple sur Giono, il s'est beaucoup compliqué la vie avec Madame Nuance. Il est en difficulté. On n'a pas l'impression que c'est un personnage avec lequel il est très à l'aise, peut-être parce qu'elle le fascine. Il lui a mis trop de choses. Elle est à la fois immensément généreuse, en même temps, comme vous le dites, elle est plus ambiguë qu'on pourrait le croire. Et on sent qu'il est moins à l'aise avec elle. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'élimine du récit, comme ça, sans autre forme de procès, parce que ça ne s'explique pas du tout. Personne ne peut ne pas avoir vu Madame Numance, on l'a sûrement vu quelque part. Enfin, on l'aurait vu dans un petit coin comme ça. Et c'est pour ça que je pensais qu'il faudrait peut-être inviter ces jeunes gens à lire cet autre roman très difficile, qui est Un roi sans divertissement, mais où les choses se répondent vraiment de façon parfaite, presque, hein, avec Les âmes fortes.
Oui, merci beaucoup pour ces remarques complémentaires, hein, tout à fait justes. À ceci près que, d'une part, le sang dans Les âmes fortes reste purement métaphorique, alors qu'on a beaucoup d'autres. Et, bon, effectivement, on pourrait faire un parallèle entre Les âmes fortes aussi et Les grands chemins, où le thème du sang est plus manifeste, ou d'autres. Donc d'une part, le sang est simplement métaphorique, mais l'intérêt esthétique se déplace, tout à fait. Simplement, on ne peut pas non plus dire Thérèse est ou Madame Numance est. C'est-à-dire que les déplacements, hein, les diffractions du récit rendent très difficile la saisie d'un personnage. Et Madame Numance, je ne crois pas que ce soit Giono qui lui ait mis trop de choses sur le dos. Je crois que c'est le choix narratif qui s'est imposé à lui en cours de route qui a fait qu'il a choisi ses miroirs successifs, de même que Thérèse se voit à la fin du roman dans des miroirs et qu'elle est multipliée par les miroirs, Giono a choisi cette construction en miroir à cette différence près que Thérèse, elle, est toujours là pour en parler, au centre, comme l'araignée au centre de sa toile, du récit, hein, alors que Madame Numance en a disparu, hein, pour maintenir une sorte de jeu et de rapport dialectique qui fait tout l'intérêt de l'image du sang, effectivement. Dans Un roi sans divertissement aussi, le rapport proie-prédateur vaut pour le tout début du roman, mais ensuite l'intérêt se déplace. Et c'est autour de Langlois devenu à son tour prédateur, parce que le film le montre avec un lacet essayant de tuer des gens à la fin de l'histoire. Bon, il y a toujours un rapport certainement de prédateur à proie, mais qui est peut-être plus facile dans un roi sans avertissement que dans les âmes fortes, parce qu'il y a une succession d'histoires qui ne sont pas en contradiction entre elles, et qu'on peut repérer une identité à peu près cohérente des personnages, même si elle est lacunaire. Il n'y a pas cette diffraction, cet éclatement des personnages qui nous interdit de dire « Madame Nuance est » ou « Thérèse est ». La quête est perdue de Madame Nuance par Thérèse, c'est une version, c'est celle du contre. Ce n'est pas Thérèse qui le raconte, cette recherche. Donc il y a des... On est encore plus obligé pour les âmes fortes de revenir à tout moment à qui raconte plus encore. Oui. Oui, 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 oui. C'est pour ça que je crois que Les âmes fortes est un roman encore plus difficile qu'Un roman sans avertissement, à cause de ses voies multiples. Alors que dans Un roman sans avertissement, c'est une construction par enchâssement, donc il y a des relais narratifs, mais sans contradiction entre ces différents plans narratifs, ces différents niveaux du jeu de loi. Le jeu qui rendrait compte plutôt des âmes fortes, du point de vue structurel, c'est le billard. C'est le billard, c'est-à-dire les rebonds obliques. Il y a un article à faire sur le billard dans Les âmes fortes, comme modèle ludique, comme modèle structurel, ce n'est pas la... On dit bille, sans doute, et non pas boule, ce n'est pas forcément celle que l'on croit qui va obtenir le bon effet. Et il y a donc un jeu de réfraction, d'angle, d'effet de miroir et de circulation inattendue, qui fait que les coups ne partent jamais dans le sens que l'on croit. Alors que le jeu de loi, c'est plus centré. Bon, sinon je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur le rapport proie-prédateur et sur l'importance du sang, tout à fait.
Devient de plus en plus, comment dire, les récits convergent quand même. Par exemple, dans le premier récit du contre, on voit bien que c'est elle qui emmène Firmin vers les Numances, qui a déjà quelque chose qui est de cet ordre de la manipulation. Et dans le récit suivant, la manipulation devient complètement évidente. Et tous les récits fonctionnent un petit peu de cette manière-là. Donc, oui, ça va beaucoup plus loin. On a en même temps une convergence et on a des différences entre les récits qui demeurent fortes d'un récit à l'autre. Oui. Donc c'est ça que je crois aussi qui est difficile dans le texte.
Et ça rejaillit sur les traits accordés aux personnages, qui parfois sont les mêmes pour des personnages différents. Ce qu'on croyait être des traits distinctifs finit par brouiller le récit. Des traits accordés à M. Dumance et à Rampal, des traits accordés à telle femme ou à telle autre. Donc, en effet, il n'y a pas d'antithèse radicale. Alors que longtemps, on a présenté ce roman comme un roman où on a deux versions incompatibles. C'est plus complexe que cela, à cause de ces contaminations, à cause de ce fil conducteur qui conduit malgré tout d'une version à l'autre.
Oui. À la fin, quand il déclare clairement que Thérèse est une âme forte, après, il dit « la raison ne lui servait de rien ». Mais j'ai du mal à voir le sens de cette phrase qui pourtant paraît très importante. On a plutôt l'impression qu'elle se sert de sa raison et la détourne à une fin maléfique plutôt qu'elle ne servait de rien, en fait.
C'est tout à fait juste. De même que c'est une contradiction parmi d'autres. Enfin, de même que c'est le contre qui dit au début, je crois pour vous, Thérèse, qu'elle n'avait pas d'imagination. Alors, imagination ou pas d'imagination ? Raison ou pas raison ? Si elle a ce comportement de libertine à la conquête du monde, la raison est à l'œuvre. Je crois qu'ici, c'est simplement pour opposer une certaine raison classique, une rationalité cartésienne, au pouvoir de l'imaginaire, au pouvoir du récit, au pouvoir de la fabulation. Mais il est vrai que dans d'autres passages du roman, on peut estimer que la raison est présente. Mais dans l'opposition raison-imagination, je crois que le dernier mot, malgré tout, du roman joue en faveur du primat de l'imagination, du mensonge comme affabulation. Et en ce sens, la raison est secondaire. La raison qui fait qu'on ne se fout pas de l'argent, qu'on ne jette pas l'argent dans un torrent. la raison calculatrice. On peut penser aux deux systèmes de référence dont je parlais tout à l'heure, la raison, hein, qui, de l'intérêt, du calcul, opposé à la liberté, à la fantaisie de l'imagination. Je pensais avoir des questions, mais il n'y en a pas, heureusement, parce que c'est le mot le plus énigmatique du roman, c'est « ho ». C'est l'épigraphe de Shakespeare, emprunté au conte d'Hiver. Alors je finirai là-dessus justement, parce que d'abord c'est le « ho » de l'étonnement, de la surprise, mais aussi de la bouche vorace peut-être, mais ce « ho », on le cherche, enfin on peut le trouver quand même dans Winter Tale, dans la pièce de Shakespeare, mais c'est surtout une facétie de Giono qui montre que la chronique c'est aussi l'opéra bouffe, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté humoristique, cette façon de déjouer l'attente du lecteur, de se moquer de nous. J'ai un certain nombre d'amis lecteurs qui, en lisant Giono, avaient le sentiment qu'ils se moquaient de nous, qu'ils se foutaient de nous. Quand j'ai dit tout à l'heure que le mensonge est autre chose que la fiction, je crois qu'il y a cela, et qu'il rirait beaucoup s'il nous entendait essayer de trouver une cohérence, une vérité, un sens dans ces textes-là.
Peut-être mais... qu'il est important de préciser aussi qu'à cette époque-là, le roman commence aussi commence à se transformer. Donc je ne me rappelle plus l'auteur le nom d'auteur de celui qui a écrit Le Menteur, qui a dû être écrit à peu près à la même époque.
Il y a le bavard de Louis-René des Forêts, qui est quasiment contemporain, mais je ne pense pas que... Oui, c'est quasiment contemporain. Donc il y a, comme texte contemporain, mais peu connu à l'époque, et pas tellement de Giono à ma connaissance, il y a Beckett et des Forêts, qui allaient un peu dans le même sens. Tropisme était paru avant la guerre, mais il n'avait pas eu de grand retentissement. Ce que connaît Giono, c'est Faulkner, surtout. Gide, bien sûr, donc Les Faux-Monnayeurs, Le Bruit et la Fureur. On se pense surtout à Faulkner quand on lit Les Âmes Fortes. Mais c'est bien avant, c'est une dizaine d'années avant le nouveau roman, 5 ans, enfin, c'est 53 les tout premiers, 4-5 ans avant le nouveau roman, mais quand Giono dit il n'y a pas beaucoup d'innovation narrative, c'est quand même une révolution, Les Âmes Fortes. C'est le premier roman qui fait le pari de ces voix confuses, plurielles, contradictoires, même Le Bruit et la Fureur est plus clair, et pourtant...
J'ai une question. Est-ce que l'amour qu'a Thérèse pour Madame Numans, est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est sincère ou est-ce que c'est une simple machination Enfin, j'arrive pas trop à cerner parce que au moment où elle la cherche, on a l'impression que finalement là, elle est plus trop maîtresse d'elle-même et que
Là, c'est le conte qui reprend la parole. Si oui. On écoute Thérèse, si vous êtes à la veillée avec elle, avec le pauvre Albert à côté, Thérèse dit « c'est une machination ». Je simulais l'amour. Enfin, c'est très clair dans le texte. Cela dit, ce qui est frappant aussi, c'est que Thérèse ne contredit pas franchement le conte ou la co-narratrice. Oui. Après la parole, chacune raconte son récit et son histoire. « J'ai fini mon histoire, raconte ton histoire ». Les histoires sont parallèles, sans se heurter. On aimerait une contradiction, on aimerait un dialogue. Les âmes fortes, c'est un faux dialogue. Il y a des récits qui prennent place l'un après l'autre, bon, avec un passage de relais, et c'est une autre Thérèse qui surgit. Et là, on a deux Thérèses, de ce point de vue-là, inconciliables. Dans le schéma que je vous ai proposé, il y a quand même une cohérence de chaque récit qui a son autonomie, et de ce point de vue-là, c'est inconciliable. Ou bien, elle a tellement bien joué le jeu que de fait, le conte était pris au piège. Ou bien Thérèse, après coup, a reconstruit cela comme une simulation pour se donner un certain rôle. Impossible de savoir où est la vérité. Et au fond, c'est un récit très réaliste, même s'il bouscule les codes du réalisme. Dans des conversations courantes, dans les traditions familiales, dans les chroniques villageoises, dès qu'on se met à parler et à raconter le passé, la mémoire fait défaut, les points de vue ne sont pas les mêmes, la transmission familiale qui est passée par les uns et les autres fait qu'on s'oppose, on ne dit pas la même chose, on n'a pas la même version. Donc ce récit révolutionnaire est en même temps d'une mimésis accomplie, un mimésis de la parole en dialogue, et mimésis jusque dans cette confusion des voix. Mais c'est à vous de choisir comme lecteur, au fond, entre les voix. Le lecteur peut aussi faire son choix. Alors, bon courage pour continuer à lire Les âmes fortes. Parce que les questions demeurent et c'est normal et c'est sain.